Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps et dans l'espace grâce à Henri Duhaut. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule Les Sauvages Banards. Vous allez nous dire de quoi il s'agit. Alors, vous êtes originaire de Briscousse et vous habitez à Saint-Pé.
Tout à fait. Je suis né à Briscousse en 1942, il y a déjà un certain bout de temps là. Et puis je me suis marié à 26 ans à Saint-Pé-sur-Nivelle et depuis je suis là-bas. D'abord, je suis fils de paysan. Militant paysan d'abord, militant chrétien paysan ensuite. Puis à CMP, mais je suis devenu commerçant, tout simplement commerçant dans la quincaillerie. Bon, certains n'aiment pas trop ce terme de quincailler, mais moi je suis très, très fier d'avoir fait ça et j'ai beaucoup aimé même ce métier-là.
Vous aimez l'histoire, vous aimez l'histoire locale.
J'aime passionnément l'histoire. Je l'aime depuis toujours, même à l'école. Je ne sais pas si on s'étale trop dans notre discussion, mais enfin, à l'école, quand j'avais 12 ans, je connaissais à peu près par cœur le livre d'histoire que j'avais entre les mains, et j'avais remarqué que l'instituteur avait un livre beaucoup plus complet. Et voilà qu'un jour, je lui demande, vous pourriez me prêter ce livre d'histoire? Et l'instituteur m'a prêté le livre d'histoire. Je l'amène à la maison, bien sûr. Les parents affolés, mais tu vas l'esquinter, c'est pas possible, il faut que tu rendes ça tout de suite. Voilà mes premiers, comment dire, mes premiers souvenirs de mon amour pour l'histoire, quoi. Voilà.
Vous aimez aussi le Pays basque et sa langue.
Ouais, comment faire autrement? Je sais pas, moi c'est, je vois difficilement comment on peut faire autrement. Étant né ici, nous devons tout à ce qui nous entoure, ce qui nous a fait, nos parents, notre village, notre culture, nos traditions, c'est tout ça qui nous a fait que ce que nous sommes. Donc, voilà. Bon, après, je reconnais que tous mes camarades, nous étions 15 du même âge, n'ont pas tous suivi le même itinéraire que moi, ça c'est vrai. Et la plupart d'ailleurs de Briscoussetans sont partis vers Bayonne, ou plus loin, etc. Et moi par contre à l'école d'agriculture à Garot, Mendionde, et à partir de là je suis, il faut bien le reconnaître, je suis devenu amoureux fou du Pays basque intérieur. Pourquoi? C'est comme ça. Ensuite j'ai été responsable de Eskualdun Gaztedia. D'ailleurs, j'avais le siège ici même, là où nous sommes.
Ce que j'allais vous dire,
La
Henri
forêt de
Duhaut, c'est pas
Prébanat,
sans. C'est
j'ai
pas.
commencé ma carrière, entre guillemets, ici.
Au 9 rue des Prébendés, donc c'est pas sans émotion que vous venez dans nos nouveaux studios.
Exactement. Parce que j'ai passé ici des moments incroyables. Il y avait une équipe d'aumôniers remarquables qui se retrouvait ici aux alentours de 5 heures pour prendre le café. C'était un truc, un moment un peu privilégié, un peu sacré autour de la reine du coin. Mademoiselle, à l'époque on disait comme ça, Renée Chevalier-Nagui, qui préparait un café excellent. Et alors c'était le moment de partager chacun. Il y avait des aumôniers, de la Jacques, de la GEC, etc., etc., des anciens, des femmes, et j'en passe.
Henri Duhaut, aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un livre que vous avez publié tout dernièrement. Je le disais au début de l'émission, on va voyager dans le temps et dans l'espace, puisque vous allez nous parler d'un de vos compatriotes de Briscousse. De qui s'agit-il?
Il s'agit de Pierre d'Ourisbourg, né en 1825 et décédé en 1890, à l'âge de 65 ans, après avoir été missionnaire apostolique au Vietnam dans une ethnie très particulière, les Banards. Bon, à l'intérieur, il y a des tribus, il y a plein de. Les Banards, ce n'est pas homogène au total, mais enfin, c'est quand même, on les appelle comme ça. Et c'est une population très intéressante, et c'est là qu'il a fait un apostolat absolument incroyable. En voyant avec les yeux d'aujourd'hui, c'est presque inconcevable. Et il a pourtant mené à bien son truc, alors que tous ses camarades, ses confrères, pardon, missionnaires, se sont éteints, parfois très rapidement, parfois 2 mois seulement après leur arrivée sur les lieux, car les lieux sont très 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 malsains. pour les personnes d'ici, l'alimentation est misérable, plus que misérable. Et certains ne pouvaient rien manger. Il y en a un qui est mort, donc, je vous disais, 2 mois après, il n'a rien pu conserver. Et il avalait, mais il ne pouvait pas retenir. Alors, on mangeait des rats, des souris, enfin, etc., etc., des racines d'arbres, des feuilles, des fougères tendres, et j'en passe. Mais c'est incroyable. Pourquoi, peut-être la question que l'auditeur va se poser, mais pourquoi est-il allé jusqu'à si loin là-bas, peut-être par exemple autour de Saigon ou de Hanoï ou tout ça, il y avait des coins quand même qui étaient un peu moins durs. C'est qu'il y avait à l'époque une persécution terrible au Vietnam, terrible. Oh, les missionnaires étaient obligés de se cacher. Ils vivaient, l'évêque du coin vivait caché. Monseigneur Quanon, dont l'abbé Doris Bohr fait l'éloge. Qui a été martyrisé d'ailleurs, mais en fait, il est mort juste la veille du jour où il devait être abattu. Mais enfin, bon, bref. Et donc, il se cachait. Pourquoi si loin? Parce que là-bas, la persécution n'arrivait pas dans ces contrées si éloignées. Une petite idée. Il arrive donc à Saigon, après avoir fait 6 mois de voyage, pour aller du Havre jusqu'à Saigon. Et de Saigon, au lieu de son travail, 6 semaines de marche, alors que nous savons que Doris Bohr était un marcheur exceptionnel. Donc imaginez un peu les coins les plus... Alors on cherchait justement ces coins reculés, parce que là-bas, il n'y avait pas la persécution, et donc ils pouvaient, même si c'était très très difficile de faire quelque chose... Il valait mieux quand même aller au fin fond de la brousse, on peut le dire là, et essayer de faire quelque chose. Alors évidemment, c'était des endroits où il n'avait jamais vu.
À l'époque, le Vietnam s'appelle comment?
C'est l'Indochine, peut-être vous le dire. L'Indochine, c'est un peu plus tard qu'on a appelé ça, la colonisation française l'a appelé comme ça. Mais l'Indochine est composée pas seulement le Vietnam, il y avait aussi d'autres coins qui étaient inclus dans la fameuse Indochine.
Vous proposez au lecteur un livre qui a été rédigé par Pierre Doris Bohr lui-même, c'est ça?
Je viens de dire qu'il a donc vécu dans des conditions exceptionnellement difficiles. Tous ses confrères sont morts très rapidement, mais vraiment tous. Il est resté seul.
Mais sont morts de morts violentes?
Non. La plupart de maladies. Parce que je vous dis, dans l'endroit à ce point reculé, il n'y avait pas de persécution. On était assez loin. C'était les Annamites qui étaient au bord de la mer de Chine. Là. C'était là qu'il y avait la grosse persécution. Là, on était dans une civilisation un peu supérieure. Là, nous sommes très, très, très loin, au fin fond, et d'endroits quasi inaccessibles. Alors, voilà. Et là-bas, on pouvait un peu travailler. Par contre, ce qu'on pouvait craindre là-bas, c'est d'être frappé par des gens du cru, de l'endroit. Parce que, si vous voulez, avant Doris Bohr, il y avait 2 autres qui étaient rentrés, père Fontaine et père Combes, Jean-Pierre Combes. Ils y étaient depuis 2 ans, ou presque 3 ans, quand Doris Bohr est arrivée sur place. Ils vivaient dans la forêt. Ils avaient converti personne. Ils vivaient sous la menace des gens. Et je pense que Doris Bohr était d'abord doué physiquement, on l'a dit, très puissant, très formidable au point de vue résistance. Mais je crois qu'il était un peu malin aussi. Quand on lit, j'ai l'impression que certains missionnaires sont allés un peu trop à l'aise, ou peut-être parfois même en désirant le martyre aussi. Ça, c'est encore une autre chose qu'on retrouve dans toutes ces lectures. Il y avait une soif de martyre. On peut difficilement comprendre ça aujourd'hui, mais c'est comme ça. Ça a existé, c'est véritablement le cas. Mais je crois que Doris Bohr a été d'abord très puissant, très costaud, mais il a été habile aussi. Il a su, petit à petit, comme il a pu, il est arrivé à s'intégrer. Une personne, 2 personnes, une famille, 2 familles, puis pendant un labeur de longue durée, et qui a fait qu'il a réussi finalement, il a obtenu le titre de fondateur de la mission de Banach. C'est un titre formidable.
Il restera donc une quarantaine d'années.
Voilà, donc il va rester une quarantaine. D'abord, il fera les 20 premières années. Et c'est au bout de ces 20 premières années qu'il écrira le livre, à la demande de ses supérieurs. Il était déjà très fatigué. On lui a dit, tu vas aller à Paris. Je pense qu'on vous voyait à l'époque, si vous voyez entre eux. Vous irez à Paris, vous allez reprendre des forces et vous allez écrire ce que vous avez vécu ici pendant les 20 premières années. En fait, il lui avait dit ça déjà 5 ans auparavant, alors qu'il n'avait que 15 ans de postulat. Il avait déjà commencé donc pendant 5 ans à noter quelques petits souvenirs dans des bouts de papier et tout ça. Il vient à Paris et un an et demi pour se restaurer d'une part et pour écrire. Après avoir écrit, il est reparti. Il est reparti là-bas et il a continué pendant 15 ans encore, toujours, son apostolat. Mais là, la deuxième partie va être nettement meilleure. Quand, au moment de l'écriture du livre, ils étaient 1000 chrétiens comme ça. À la fin, ils seront, je sais pas, plusieurs milliers, puis des choses comme ça. Il ira beaucoup mieux dans la deuxième partie. Il deviendra même presque un responsable civil, c'est ça qui est très 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 amusant, presque un roi, le dit le père Adrien Launay, historien des missions étrangères. Et il faisait des lois, et il sévissait aussi parfois, bref, c'est assez extraordinaire, cette mise en place de la société civile aussi, dans un milieu qui n'avait aucune culture, aucun livre, donc il va partir de zéro. Il va faire un truc dont je suis, moi, muet d'admiration, quoi. On se demande comment il a pu faire.
Avant de retrouver notre invité, Henri Duo, je vous propose d'entendre un extrait du récit du père Pierre Dourisbourg, « Les sauvages bannards », un récit publié en 1870.
Nouveau chrétien à Cochem. Quand les habitants de Cochem virent Émur abandonner leur superstition avec tant d'audace, et selon eux avec tant d'imprudence, tous crurent qu'il allait périr sous peu et misérablement. Sa mort inévitable fut, pendant quelque temps, le sujet de toutes les conversations. Cependant, les jours, les semaines, les mois entiers s'écoulaient, et la santé de Émur était plus florissante que jamais. Non content d'avoir abandonné le diable, le jour de son baptême, il affirmait de nouveau sa foi, tous les jours, en méprisant les pratiques superstitieuses de ses voisins et de sa propre famille. Et cependant, son riz était beau et sa récolte abondante. Peu à peu, on parla avec moins d'assurance de sa propre mort prochaine. Puis, on n'en parla plus du tout. Puis, la grâce du bon Dieu aidant, quelques-uns des plus chauds partisans du démon et de son culte se sentirent ébranlés et finirent par ouvrir les yeux à la lumière de la foi. Les 5 premiers qui suivirent l'exemple de Émur furent Yang, Aemon, Thot, Poi et Eloy. Yang était la femme de Émur. Pour faire comprendre combien cette femme était éloignée du bon chemin et quel triomphe la grâce divine remporta sur l'enfer par sa conversion si prompte et si sincère, il suffit de savoir qu'elle était Bojaou. La Bojaou est la pythonisse, ou si l'on veut, la sorcière officielle d'un village. Ces malheureuses créatures sont certainement le plus grand obstacle à la conversion des sauvages, et si l'on pouvait d'un seul coup soustraire ces pauvres gens à leur fatale influence, la religion ferait certainement parmi eux de rapides progrès. Le sauvage a dans la Bajaou une confiance sans borne. Elle est censée savoir beaucoup de choses cachées au reste des mortels. Elle voit les esprits, elle est en relation avec eux, elle connaît l'avenir. Elle peut dire, par exemple, combien on vivra de temps, de quelle mort on mourra, etc. Quelqu'un est-il malade? La Bajaou sait d'où vient la maladie, ce qu'il faut faire pour l'éloigner. Elle indique les superstitions requises pour obtenir le succès d'une affaire, les sacrifices nécessaires pour éviter un malheur. Chaque Bojaou a son gros, son démon particulier. C'est à lui qu'elle s'adresse pour apprendre les choses cachées sur lesquelles on vient l'interroger. On ne peut dire de quelle injustice affreuse ces pythonisses sont chaque jour la cause. Une personne meurt, on va interroger la Bajaou pour savoir la cause de sa mort. Celle-ci, après maintes grimaces qui servent à jeter de la poudre aux yeux des consulteurs, déclare solennellement que la personne en question est morte parce qu'elle a été frappée par quelqu'un qui a Deng. Deng, c'est le pouvoir de lancer avec un arc invisible, des flèches également invisibles, qui vont frapper à distance et causent inévitablement la mort. On donne aussi le nom de Deng à la personne qui est supposée posséder ce pouvoir. La cause de la mort une fois connue, on s'enquiert du nom du coupable. La Beaujaou se garde bien d'aller trouver ce ou cette dingue parmi les enfants ou les femmes des sauvages riches et puissants. C'est toujours quelque veuve dépourvue de parents et de fortune, ou quelque pauvre orpheline qui a commis le crime. La coupable devant être vendue comme esclave ou marchand du Laos. La Beaujaou ne manque pas de la choisir parmi celles qui seront de meilleurs et plus faciles débits, c'est-à-dire parmi les plus jeunes et les plus belles veuves, ou filles des environs. Et telle pauvre enfant qui le matin se sera levée joyeuse et qui jamais n'a voulu de mal à qui que ce soit, sera le soir garrottée pour un crime imaginaire et condamnée, sans espoir, à toutes les misères et à toutes les hontes d'un lointain esclavage. Et il ne faut pas croire qu'une aussi criante injustice soit rare chez les banards. Elle se commet tous les jours, et le nombre des victimes de cette monstrueuse superstition est très considérable. Mais ce n'est là qu'une des infamies commises par la Beaujaou. Je n'en finirai pas si je voulais rapporter toutes les autres, si je voulais énumérer toutes les calamités physiques ou morales dues à son influence trois fois maudite. On comprend maintenant que le bon Dieu, lorsqu'il convertit la femme de Émur, dut aller la chercher bien loin dans l'empire de Satan et que cette grâce de conversion fut réellement extraordinaire. Yang abandonna son horrible métier. Elle renonça publiquement à son gros et à la pierre qui était son fétiche et qui avait été l'instrument de ses superstitions. Elle eut l'héroïsme de déclarer aux sauvages réunis qu'elle n'avait fait, comme toutes les autres, Beaujaou, que les tromper et spéculer sur leur crédulité. Que tout ce qu'elle avait débité sur ses relations avec des esprits ou sur sa connaissance des choses inconnues n'était qu'illusion et mensonge. Elle prit au baptême le nom de Marie, devint une fervente chrétienne, et l'est encore aujourd'hui.
Merci à Louis-Jean de Barmont pour cet extrait de ce récit du père Pierre d'Orisbourg, Les Sauvages Banards, un récit publié en 1870 et réédité en 2021 par Henri Duhaut. Preuve de son inculturation au sein de ce peuple banard, c'est qu'en 1889, il va publier un dictionnaire banard français.
Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, au bout de 15 ans, dans la deuxième partie de son séjour chez les banards, au bout de 15 ans, il n'en pouvait plus. Alors, on l'a mis directeur d'un séminaire, il n'en pouvait pas non plus. Il est allé dans le sanatorium de Hong Kong, et c'est là qu'il a écrit donc, un dictionnaire. Je ne l'ai pas amené, je regrette, j'aurais pu vous l'amener, parce que c'est vraiment incroyable. C'est encore plus extraordinaire que le livre. Il faut voir le travail que ça représente. Des milliers et des milliers de détails, de tout petits détails, parce que pour lui, il avait senti dès le départ, c'est pour ça que c'est là aussi qu'il fait mon admiration. Il disait que pour évangéliser un peuple, il faut connaître sa langue, mais connaître parfaitement la langue. C'était une obsession dans tous les détails, toutes les nuances, etc. Il sermonne un tout petit peu certains de ses collègues qui passent assez vite au latin ou des choses comme ça. Et lui, par contre, il avait d'abord appris, bien sûr, la langue des Annamites, ensuite le banar, ensuite le sedan, enfin bon, bref, je crois, trois ou quatre langues différentes du coin aussi. Et il était, je pense, un petit peu doué là aussi. Là aussi, il avait tout pour être un missionnaire exceptionnel, et vraiment, il l'a été.
Henri Duhaut, vous éditez donc Les Sauvages Banards, donc c'est la réédition du texte du père Pierre d'Orisbourg, prêtre des missions étrangères donc de Paris. Mais bien sûr, vous rééditez ce livre avec tout un tas de notes, d'introduction et de photographies également.
Oui, évidemment, quand j'ai écrit, c'est un peu mon style, j'en suis quand même à mon 20e ou un peu plus livre, et chaque fois, il y a toujours un sujet principal, mais j'aime bien un petit peu les alentours. Et il faut quand même penser que ce d'Orisbourg a fait des émules, et ici au Pays Basque. Et un des premiers sera, de ce que j'en parle là, ça doit être Dominique Ilibarne d'Ossès, qui va rencontrer d'Orisbourg là-bas sur place, dans les années 1883, à peu près. Ça va être terrible pour lui, parce que un an et demi après son arrivée là-bas, il va être, on peut dire, je suis désolé, mais en fait, dépecé pratiquement sur place. Et voilà, des trucs dans le livre, vous allez trouver des passages sur Dominique Ilibar, originaire d'Ossès. Vraiment, plus qu'émouvant, je pense qu'il faut prendre un petit sachet de Kleenex à côté parce que c'est vraiment,
vraiment bouleversant. Une plaque lui rend hommage à l'église d'Ossès.
Voilà.
Alors ce livre, comment on peut se le procurer et à quel prix ?
Alors le livre est vendu à 20 euros, prix de revient, je ne fais bien sûr aucun bénéfice.
C'est un livre publié à compte d'auteur, c'est ça ?
C'est fait à compte d'auteur, parce que ce ne sont pas des sujets rentables ça aujourd'hui. Mais je peux vous dire une chose, à Briscousse, j'en ai vu qui étaient émus, mais vraiment émus, de le voir arriver après le travail que j'avais fait sur les salines aussi. C'est vrai que ça y compte aussi, parce que là, j'ai fait un travail assez considérable pour sur les salines. Et quand je suis revenu avec ce livre-là, bon, vraiment, ils étaient... c'est comme pour les salines. On en a entendu parler de Dorisbourg X fois. Des prédicateurs en ont fait état plusieurs fois dans l'église de Briscousse, mais sans savoir vraiment ce qu'il a écrit. Il y avait déjà eu une traduction en basque de ce livre en 1936 par l'abbé Jean Elissalde, qui se faisait appeler pseudonyme Serbitsali, très grand auteur, très grand écrivain, qui avait traduit Banar Deitu Chalbayak, il l'avait appelé, et qui a eu un certain succès, mais à l'époque, ils n'en avaient pas tiré assez, ça s'était épuisé très vite. Mais bon, il y avait déjà donc, une connaissance un petit peu de ce personnage. Un peu plus d'ailleurs en basque qu'en français, puisque l'édition en français a été très peu divulguée au Pays basque finalement.
Et c'est pour ça que vous publiez
voilà,
cet ouvrage.
Voilà, je me dis, c'est pas possible, il faut que le Beskustar, déjà en premier, puisque c'est un Beskustar authentique qui est là, et le père était maire de Briscousse, son grand-père avait été pendant longtemps aussi maire de Briscousse, son neveu sera aussi pendant un certain temps maire. Son père va être évincé en 1860 par Napoléon III parce qu'il était, je pense, royaliste. Mais enfin, ça, ce n'est pas un défaut pour l'époque. Et donc, voilà, il fallait absolument que les Beskustar connaissent la vie de ce personnage qui est exceptionnellement intéressant et aimable parce qu'il a toutes les qualités. Ce que je vous ai dit, ce que je peux dire de plus, c'est ça quoi.
Où est-ce qu'on peut se procurer le livre ?
Alors le livre ici à la librairie Elkar, comme d'habitude quoi, voilà, à Bayonne, à Briscousse aussi, librairie habituelle que tout le monde connaît, également à Saint-Pé où tout le monde connaît parce que j'ai pas mentionné, il y a Dominique Ilibar mais aussi à Théophile Bonnet, originaire de Saint-Pé, qui a été, alors lui, mitraillé carrément en 1961 par le Viet Cong. Cette famille Bonnet à Saint-Pé est très importante famille. Et lui aussi, il aura fait quelques années. Il savait ce qu'il risquait, contrairement à d'autres qui n'étaient pas toujours très conscients Mais là, lui, il savait vraiment ce qui est risqué, et on le considère comme un véritable martyr, puisqu'il a continué, malgré tout le risque, malgré tous les paroissiens qui lui disaient « Ne restez pas ici, vous avez les communistes qui sont autour de vous, ils veulent vous tuer, etc. etc. » Et il n'a pas bronché, et ils l'ont abattu.
Un grand merci à vous, Henri Duhaut, pour cet ouvrage donc, qui vient de sortir, la réédition de ce texte du père Pierre Dorisbourg, prêtre des missions étrangères de Paris, intitulé « Les sauvages banards ». Donc vous proposez le texte, mais aussi tout un tas de notes, de photographies qui l'accompagnent. Donc c'est en vente, comme vous l'avez signalé, dans les bonnes librairies. Elkar à Bayonne, à Saint-Pé à la maison de presse et également à Briscousse à la maison de presse. Un grand merci à vous.
Merci à vous.